Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur Acast. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation.
Bienvenue dans le deuxième épisode de cette série, le travail, un peu, beaucoup, à la folie, pas du tout. Dans le premier épisode, nous avons entendu ceux pour qui le travail est essentiel. Dans ce deuxième épisode, à l'inverse, nous allons entendre ceux qui ont arrêté de travailler, par choix, et qui dénoncent le système actuel. Il y aura aussi un éclairage sur le revenu inconditionnel et ce qu'il implique comme changement dans le monde du travail. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes ces thématiques autour du travail et plus globalement sur la quête de sens et le changement de vie dans le magazine des déviations qui sort en décembre. Un cadeau idéal pour vous ou vos proches.
Je me suis dit en fait c'est ridicule, je suis en train d'essayer de me mettre dans un système salarial que je dénonce tous les jours, quoi. Et donc je me suis dit ça peut peut-être valoir le coup de dire, un peu par provocation mais aussi pour interpeller, que j'ai pris ma retraite.
Nous commençons à Nantes avec Mathieu Florence, qui a décidé de prendre sa retraite à 28 ans. C'était au printemps 2019, et c'est sa façon de dénoncer le fonctionnement du monde du travail actuel et la place trop contraignante qu'il prend dans nos vies. Il a fondé plusieurs associations, et dans le cadre de l'une d'elles, nous assistons à une rencontre.
Bonjour à tous, là on se retrouve cet après pour faire un petit goûter autour du projet Les Charlatans. Donc je suis accompagné de Guillaume. Il n'y a pas de Guillaume, mais il y a Johan et Myriam autour de la table avec qui on accueille des personnes et on rencontre des personnes qui ont envie de s'engager sur le territoire de Nantes.
Les personnes présentes se posent des questions sur leur travail, envisagent une reconversion, l'ont faite, ou viennent seulement juste pour discuter, échanger et rencontrer des personnes dans la même situation qu'eux.
Tu voulais recentrer
Je voulais bien recadrer sur la question de l'engagement et le sexe en général. Quand tu nous as découvert un peu sur Meetup, où tu as vu l'événement, tu avais envie d'aborder des points par rapport, enfin, liés à ton projet à toi, ou liés plutôt à ton engagement personnel, ou liés à l'ESS, ou...
J'ai envie de dire un peu des trois.
Ouais.
Je vois trop souvent des gens qui, en gros, essayent dans leur vie quotidienne d'être en conformité avec les valeurs qu'ils défendent, et puis laisser tout leur principe au vestiaire quand ils arrivent au boulot, quoi. Et en fait, j'avais plus envie de vivre comme ça non plus.
Je rencontre ensuite Mathieu. Peux-tu me dire ce que représente le travail pour toi aujourd'hui ?
Pour moi, le travail, c'est plutôt une contrainte. J'assimile ça à un effort plutôt subi. C'est sûrement dû à mon éducation, c'est sûrement dû à ce que j'ai vécu durant mes premières expériences professionnelles. Et mes dernières. C'est plutôt négatif en tout cas, quand je regarde le monde du travail, quand j'en parle avec mes amis, quand j'en parle avec mes proches, je vois que ça génère plus de souffrance que d'épanouissement. Et du coup aujourd'hui, j'ai pas envie de glorifier le travail et d'en faire quelque chose de positif. J'ai plutôt envie de dénoncer l'aliénation, j'ai envie de dénoncer la misère sociale, les inégalités sociales que ça amène, salariales. La dépendance à l'argent que ça amène et le mythe de la réussite que le travail finalement construit.
Mathieu a grandi dans une famille classique où le travail est important. Il a toujours été bon élève et il a obtenu un master en accompagnement à l'entrepreneuriat. C'est en voyant la détresse de ses amis au chômage qu'il monte l'antenne nantaise de l'association Cojob. Cette association veut transformer le chômage en une période positive et collective. Il y travaille un moment, puis ensuite il monte avec des amis le collectif Travailler Moins et l'association Les Charlatans, qui accompagne les personnes en transition dans leur emploi vers l'économie sociale et solidaire notamment. Et donc c'est suite à un dernier contrat salarié en avril 2019 que tu décides de prendre ta retraite.
Je me suis dit, en fait, c'est ridicule, je suis en train d'essayer de me mettre dans un système salarial que je dénonce tous les jours, quoi. J'ai réalisé que j'avais quand même une petite épargne, que j'étais bien entouré, que j'avais d'autres cadres d'engagement, ou en tout cas je me sentais utile. Et donc je me suis dit, bah, ça peut peut-être valoir le coup de dire, un peu par provocation, mais aussi pour interpeller, que j'ai pris ma retraite à partir de mai 2019. Et donc en effet, depuis mai 2019, j'ai pas travaillé normalement. Donc, c'est-à-dire que je suis ni salarié ni indépendant. Je suis sans activité professionnelle officielle. Alors déjà, c'est pas facile, même si je suis un grand privilégié, comme j'ai dit, parce que en effet, j'ai une épargne, j'ai une petite épargne, hein, mais vu que j'ai des revenus, vu que j'ai des besoins qui sont assez bas, mensuellement parlant, et ben en fait, je peux me permettre d'être au RSA et de bien vivre sans trop me priver, sans trop taper dans mes réserves. En fait, c'est pas facile d'un point de vue symbolique. T'as une sorte de pression familiale qui existe, et sociale globalement, sociétale même, qui est pas évidente à vivre au jour le jour. Et la pression, en effet, liée au futur. Comment tu fais pour rendre viable un peu la démarche? Alors déjà, tu fais tes calculs. C'est important d'être au clair sur combien de temps tu peux rester dans cette situation. Et moi, j'ai des calculs que j'ai faits. Si je maintiens ce niveau de vie, je peux tenir 4 à 5 ans comme ça.
Tu as monté une quatrième association, les Têtes Chercheuses, qui s'adresse aux 15-25 ans. Tu as sorti un livre, Va te faire vivre. Comment vois-tu ton avenir?
En fait, pour être tout à fait franc, moi, ça fait 5 années que je triture mon cerveau. Je fais beaucoup de mal à mon cerveau sur ces questions de travail et de chômage. Ça fatigue beaucoup. J'ai l'impression d'avoir fait le tour et du coup, je ne suis pas convaincu de continuer autant à parler de travail, à faire des choses en lien avec ce sujet pour changer la conception de la valeur travail des Français. J'appelle à des relayeurs, en tout cas à des personnes qui vont prendre la suite. Mais en fait, je pense que je vais diminuer mon implication sur ce champ parce que j'ai envie de faire des choses. Et j'ai beau aider des gens à changer de vie ou à avoir des déclics, il me manque des activités justement qui ne mobilisent pas trop d'intellect, ou en tout cas qui sont pour le coup manuelles principalement. Et c'est pour ça que j'ai envie dans l'avenir de monter en compétences sur des métiers manuels comme boulanger, comme maraîcher, voire comme barman. Je dis aujourd'hui que je suis à la retraite parce que il n'y a pas trop d'autres mots pour qualifier les personnes qui font ce choix de plus travailler en tant que salarié ou indépendant. À part les retraités. En tout cas, aujourd'hui, je ne raisonne pas sur le long terme. J'ai essayé d'arrêter de faire ça depuis que je suis globalement à la retraite, parce que ça fait trop peur. Ça fait trop peur, le long terme. C'est un peu ridicule, même. Les gens qui posent cette question, ils ne sont pas conscients, je crois, que notre monde va être bouleversé dans les années à venir. Socialement, sanitairement parlant, écologiquement parlant, économiquement parlant. Tous les secteurs, ça va être bouleversé. Et du coup, je préfère focaliser mon attention sur ce que je peux faire de bien dans les 6 mois, saisir les opportunités sans trop avoir d'attente, vivre simplement, se projeter est pour moi ridicule, en tout cas sur le long terme. Après, j'ai un idéal de vie que j'aimerais bien atteindre. J'ai été formaté comme il faut par mes parents. Du coup, c'est clair que moi, la petite maison à la campagne avec un ou deux enfants, pourquoi pas en fait. Mais il va falloir faire des concessions du coup, et on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais je suis pas figé en fait. Je suis pas figé sur des choses que j'ai pu dire ou un statut professionnel en fait. Je suis pas figé.
Comme Mathieu, Alix, tu as arrêté de travailler avant tes 30 ans. Ta réflexion a duré un certain temps, pendant lequel tu as eu quelques expériences professionnelles. Est-ce que tu peux nous dire quel a été ton parcours?
Mes parents sont plutôt de classe moyenne, donc fonctionnaires ou employés de banque. Du coup, avec toujours le même travail, en fait, ils ont eu un emploi à vie, ils n'ont jamais eu trop d'autres emplois. Un emploi qui leur convenait pas forcément, mais qu'ils faisaient quand même, parce qu'il n'y a pas le choix, il faut bien travailler pour vivre. Moi, j'ai fait des études, du coup, j'ai fait un DUT, puis une licence pro, puis un master dans le transport et la logistique. Et puis au fil du temps que j'ai fait ce master, je me suis rendu compte que et d'expérience de stage et autres que travailler 35 heures par semaine, ça allait pas trop le faire. Du coup, j'ai expérimenté au maximum du travail à mi-temps, jusqu'à me dire que même en fait, j'avais plus assez de temps pour du travail à mi-temps dans ma vie, et que je trouvais plus forcément le sens pour ça. Mais ça a fait progressivement sur peut-être 10 ans, 15 ans.
Quand as-tu commencé à militer à temps plein ?
Je pense que j'ai pas mal fait un assaut déjà depuis que je suis à Nantes, et je pense que je l'ai vraiment fait à temps plein depuis 3 ans, où je me suis dit, j'étais parti vivre en Bretagne en coloc. Et puis au retour, je me suis dit, en fait, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, donc je vais aller vagabonder un peu. Et puis sur mon chemin, j'ai croisé du coup la lutte du surfpark dans le pays de Ré. Des gens à qui ça s'est bien passé, avec qui on avait la même valeur, la même façon de voir les choses, et du coup, je suis resté un peu par là-bas. Et puis finalement, quand on croise des gens de même mi-temps, on croise d'autres gens, et puis du coup, on croise plein d'idées, de choses différentes.
Comment s'organise ton temps de militance ?
Je passe pas mal de temps dans des milieux militants à organiser des choses. C'est de passer du temps à vagabonder en vélo. Ça, c'est un truc que j'aime bien aussi, prendre du temps de souffler un peu d'avoir les copains ici et là. Et puis sinon, me poser un peu dans des lieux, soit à Nantes, soit ailleurs, du coup, pour souffler un peu. Parce que le collectif, c'est cool, mais ça demande de l'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie parce que déjà, on vit en collectif quasiment tout le temps. Il n'y a pas vraiment de temps de pause. C'est-à-dire que le temps perso, le temps collectif et le temps militant, tout se mélange. Si on ne s'arrête pas, on peut passer notre temps jour et nuit à faire des choses. Soit c'est 2 semaines et je prends un peu de pause, soit je fais plus longtemps et je prends beaucoup plus de pause, soit je fais quelques jours de temps en temps où je vais me poser ailleurs. C'est assez variable. J'ai une coloc où je suis à mi-temps ou à tiers-temps. Donc c'est un petit recoin d'appart qui fait 1m50 sur 2m, où j'ai mes affaires de stocker et puis je me stocke moi aussi de temps en temps pour me reposer. Généralement, en moyenne, je passe un tiers du temps dans l'année dans un endroit où je suis posé. Je trouve ça important d'avoir un lieu où je peux me poser.
Pour l'instant, tu es célibataire, sans enfant, mais comment tu vois l'avenir et la suite de ton engagement ?
Il n'y a pas tant que ça de trentenaire dans les milieux militants de ZAD. La plupart ont la vingtaine. Mais c'est vrai que ça te pose la question, qu'est-ce qu'on fait nous, en fait, dans ce milieu-là, où on a parfois eu pas mal d'expériences, des expériences parfois dures, on est un peu épuisé, un peu fatigué, on récupère moins bien. Quand tout le monde est en forme niveau activité, ou aime bien faire la fête et récupérer le lendemain, nous, on galère un peu plus là-dessus. Donc on voit un peu ce dégage parfois, même si ça va, on n'est pas trop à la ramasse non plus, mais c'est vrai que c'est se poser la question de comment on fait ça. Idéalement, ce que j'essaie de faire, c'est de faire ça moins longtemps dans le temps, sur une durée limitée, de prendre moins de temps pour ça et d'avoir plus de temps pour d'autres activités. Et puis voir, pour aller vers des activités où ils sont plus dans l'organisation, dans la coordination, plus du coup sur le long terme. Et je sais pas trop ce que ça va donner dans l'avenir. C'est vrai que c'est un mode de vie où on est beaucoup à voir dans le court terme, mais en même temps, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une sécurité qui est énorme. Contrairement à la sécurité des gens, la plupart, en fait, c'est l'argent qui l'apporte. Parce que l'argent nous permet d'avoir tout ce qu'on veut, de se dire, j'aurai un logement, j'aurai de la nourriture, j'ai pas besoin des autres, parce que du coup, je peux avoir tout ce que je veux. Et dans ce mode de vie-là, finalement, ce qui nous fait notre sécurité, c'est le réseau qu'on a, c'est le lien qu'on a avec les autres gens. C'est qu'on sait que tant qu'on est dans un collectif, et en lien avec des gens collectifs, en fait, on pourra toujours trouver des pistes d'endroits où aller se poser. On a toujours des possibilités d'avoir de la récup pour manger. Si on est en galère, quelqu'un peut nous aider pour trouver des sous ou autre chose, ou trouver un travail, temporairement. Alors, la limite qu'il y a là-dedans, parfois, qui a un effet pervers, c'est que du coup, en fait, si on sort de ce milieu militant, du coup, on se retrouve un peu isolé, et du coup, on perd cette solidarité-là. Du coup, c'est un peu une réflexion de comment on crée cette solidarité interpersonnelle au-delà de la lutte, de se dire que ces militants, c'est pas que des collègues militants, c'est aussi des amis. Et que du coup, même si on arrête d'être militant, en fait, on restera en lien avec ces personnes-là.
Qu'est-ce que tu changerais aujourd'hui dans le monde du travail et dans la société ?
Ce que je revendique, je pense, c'est l'abolition du travail marchand. Le travail, on en a toujours besoin, de travailler. Même si je préfère le terme ouvrage, mais je pense que ce qui est problématique, c'est plus le fait que le travail soit une monnaie d'échange et une condition pour vivre. En tant qu'anarchiste, la vision que j'ai, c'est plus une vision collective où on s'organise collectivement. Un peu la façon de la bourse du travail, par exemple, il y avait une époque où, en gros, on se réunit en communauté, en collectif, et on s'organise collectivement pour voir comment on remplit le travail qu'on a. Et ce qui est intéressant, je trouve, si on s'organise tous pour faire les tâches qu'on a à faire, ça permettra, en fait, d'éliminer tout ce qui est travail un peu pourri, il sera réparti. Plus que le travail, c'est plus la marchandisation qui est quelque chose que je critique, au final. Tout passe par un rapport marchand, qui du coup réduit, limite les rapports humains, parce que du coup quand on a de l'argent, on n'a pas besoin des autres, c'est ce qui a fait que les solidarités paysannes et ouvrières ont disparu petit à petit. C'est que les gens, quand ils voulaient avoir quelque chose, ils avaient juste à aller chercher une machine, bah, le tracteur notamment a fait ça, le tracteur finalement les agriculteurs pour faire leur culture, bah, ils avaient juste besoin de tracteur, ils n'avaient plus besoin d'aller voir leurs voisins. Du coup, c'est avec son argent, bah, on revient à des solidarités, à de l'entraide, beaucoup plus. Alors pour l'instant, c'est quelque chose qui peut être paraître pour l'utopie, mais c'est qui se fait malgré tout beaucoup plus qu'on le pense, notamment entre amis en fait, c'est ce qui se passe déjà. Le mode d'organisation anarchiste, c'est le mode d'organisation courant qu'on a dans notre famille, dans notre ami, de s'organiser de manière spontanée, sans forcément avoir besoin de faire un vote, sans avoir besoin de rapport marchand. C'est juste étendre cette logique-là, mon marchand, et d'entraide solidaire à d'autres cercles finalement plus larges.
Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent que tu profites du système et notamment du RSA ?
Tout le monde profite de l'organisation collective aussi, notamment du fait que des militants et militantes aient lutté pour des droits sociaux. S'il y a eu la retraite, s'il y a eu la sécu, s'il y a eu les congés payés, bah c'est parce que des gens ont lutté pour les avoir, les congés payés pareil. Et que ces gens-là bah en fait, ont passé plus de leur temps à lutter, du coup, bah n'ont pas eu d'activité salariale en fait. Bah lutter, c'est pas que un truc, une activité qui nous fait plaisir, c'est aussi qu'on n'a pas forcément le choix. Il faut bien que les gens le fassent. Parce que sinon notre société bah, clairement serait dans une clairement différente, serait peut-être plus autoritaire, il y aurait peut-être beaucoup plus de projets pourris qui se feraient. On a une utilité sociale qui est quand même là. Ça serait bien aussi que d'autres gens bah, arrêtent de profiter de ces luttes-là et ils participent s'ils veulent à leur échelle. C'est pas forcément obligé de participer à temps plein, mais c'est vrai que s'il y a plus de monde dans nos luttes, ça fait des luttes plus puissantes.
Alix et Mathieu perçoivent tous les deux le RSA et l'assument complètement. Pour eux, c'est une sorte de revenu de base qui finance leurs activités socialement utiles. Baptiste Milondo enseigne l'économie et la philosophie politique et défend aussi le revenu de base qu'il appelle, lui, revenu inconditionnel. Il est l'auteur de nombreux livres sur le sujet et il a notamment traduit et préfacé le livre de David Frayn, Le refus du travail. Dans ce livre, David Frayn définit trois profils de personnes qui s'arrêtent de travailler.
David Frayn, c'est un sociologue, il fait plusieurs entretiens avec plusieurs personnes qui, en Angleterre, ont arrêté de travailler, ont remis en cause de manière radicale leur rapport au travail, je devrais dire à l'emploi. Effectivement, il y a plusieurs profils qu'on retrouve dans son livre. Alors, il y a ceux qui ont beaucoup travaillé par le passé, c'est le cas notamment d'une avocate, si ma mémoire est bonne, qui est très très bien payée dans un cabinet d'avocat et qui décide de changer complètement de voie pour devenir, dans un premier temps, instite à temps partiel, à mi-temps, à la campagne. Donc elle quitte Londres et elle va s'installer dans une petite ville, voire un village, où elle consacre très peu de temps à son emploi pour pouvoir avoir du temps libéré et s'adonner à d'autres activités. Après, il y a un couple de jeunes très attachants qui viennent de finir leurs études et qui se disent que l'emploi, c'est pas fait pour eux. Enfin, je dirais le salariat. Ils décident de pas mettre les pieds dedans. Et c'est difficile. Et puis, il y a aussi ceux qui ont été brisés par l'emploi. Alors, il y a notamment le cas d'un travailleur social qui trouve plus de sens à son boulot, à son emploi, parce qu'il dit il y a de plus en plus de tâches administratives. On peut plus faire ce pour quoi on est fait, on est formé. Le contact avec les personnes qui sont censées aider, on voit que lui, il est brisé. Clairement, c'est pas un choix de refuser l'emploi, c'est juste qu'il ne peut plus retourner dans l'emploi. Donc, il y a différentes trajectoires comme ça. Ce que montre surtout David Frayn, c'est que donc ce choix n'est pas forcément un véritable choix, ça peut être aussi le fruit d'une contrainte, mais il y a toujours une sanction, multiples sanctions qui tombent sur les personnes qui refusent l'emploi d'une manière ou d'une autre, parce que dans une société que je qualifie de société laborieuse, c'est-à-dire tournée vers l'emploi, tournée vers le labeur, qui valorise le labeur, dans une société laborieuse, ceux qui refusent, ceux qui ne rentrent pas dans le rang, sont sanctionnés économiquement, sanctions sociales et symboliques aussi. Alors il y a tout un passage, tout un chapitre, même qui est consacré dans le livre, là, le refus du travail, à la question « tu fais quoi dans la vie ?» Et où chacun dit à quel point c'est une question qui les angoisse, parce que quand on n'a pas d'emploi, on fait rien qui est reconnu par la société, donc en gros, bah on fait rien. Tu fais quoi dans la vie, tu fais rien. Alors qu'ils sont tous persuadés, convaincus qu'ils font des tas de trucs qui sont utiles, en tout cas qui ont du sens pour eux, mais c'est pas reconnu. Et notamment le jugement familial qui compte beaucoup, voilà, pour les deux jeunes en l'occurrence. Ils font un choix de vie qui est pas du tout compris et suivi par leurs parents, par leurs proches, et donc c'est assez difficile. En termes de sanctions symboliques, c'est très très très.
Comme l'historien Didier Terrier dans le premier épisode, Baptiste Milondo définit le travail par rapport à la contrainte et à la pénibilité. Il reprend aussi la définition de Boris Vian qui dit « Le travail, c'est tout ce qu'on ne peut pas arrêter de faire quand on a envie d'arrêter de le faire. » Mais il ajoute autre chose.
Et puis il y a une autre définition du travail, qui va s'appuyer plutôt sur la question de l'utilité sociale, de la contribution à l'enrichissement collectif, de la production de valeur, en quelque sorte, reconnue par la société. Et donc, c'est cette définition du travail qui va être utilisée pour pouvoir disqualifier les chômeurs. Vous ne contribuez pas à l'utilité sociale puisque vous n'avez pas d'emploi. Et là, on assimile, du coup, emploi et utilité sociale, et tout ce qui n'est pas dans l'emploi, du coup, va être exclu du champ de la valeur. Derrière la valeur travail, donc, il y a la valorisation d'une activité qui est présentée comme épanouissante, une activité productive qui est présentée comme épanouissante, alors que, type personnel, ma conviction, c'est que pour la plupart des gens aujourd'hui, l'emploi est plutôt une activité pénible. Et en même temps, on nous vend le côté utilité sociale, et là aussi, on voit que de plus en plus, il y a une perte de sens dans l'emploi. On nous dit c'est dans l'emploi qu'on est utile, et on a une conviction qu'on peut être bien plus utile hors de l'emploi ou en faisant autre chose. Donc on a vraiment ces deux dimensions du mensonge de la valeur travail. Vous allez vous épanouir, en fait, on se fait chier au boulot, et vous allez être utile, et ça c'est de moins en moins sûr. Surtout dans une société de surproduction et de surconsommation, on voit bien que ça n'a pas de sens de continuer à produire autant, à bosser autant.
En quoi c'est un problème que la société soit centrée sur le travail ?
Déjà, c'est un problème parce qu'on a un double travail aujourd'hui dans notre société, qui est le travail de producteur et le travail de consommateur. Ce qui fait que quand on parle de temps libre, donc il faudrait parler techniquement de temps libéré, par libéré, il faut entendre libéré de la production et de la consommation. On a ce double travail qui nous a imposé, et c'est par ce double travail qu'on va être reconnu au sein de la société. Donc reconnu parce qu'on est producteur, on a cette casquette de producteur, on a un emploi. Et reconnu ensuite parce que on a accès à la consommation, et c'est par la consommation aussi qu'on va pouvoir donner à voir aux autres qui on est. Si on refuse l'emploi, donc on a forcément une baisse de revenus, et donc on n'a plus accès à la consommation au même titre que les autres membres de la société. Donc on est disqualifié des deux côtés, à la fois comme producteur et comme consommateur. Donc c'est ça qui est compliqué à vivre notamment.
Et donc l'une des solutions, ce serait le revenu inconditionnel.
À titre personnel, je défends le revenu inconditionnel dans une perspective décroissante. Donc l'objectif, c'est pas faire en sorte qu'on puisse consommer abondamment, même si on n'a pas d'emploi. L'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est véritablement questionner la société laborieuse dans ses fondements et dans ses objectifs. Donc il s'agit pas simplement de permettre aux personnes qui sont sans emploi, par choix ou par défaut, de participer avec les autres au fonctionnement de la société de consommation. Et l'objectif, c'est se questionner sur le sens de tout ça. Est-ce que c'est bien pertinent de continuer à produire autant, à bosser autant dans une société aussi riche que la nôtre, enfin je dirais riche à l'excès ? Est-ce que c'est pertinent aussi de consommer comme on le fait pour écluser toute notre surproduction ? Pour le redéfinir un peu dans le détail, donc il s'agit effectivement d'un revenu inconditionnel, c'est-à-dire qu'il est versé sans condition et sans contrepartie. Il y a des doubles conditionnalités, donc c'est important, donc sans condition effectivement de revenu, sans condition d'activité, sans condition... d'emploi ou d'absence d'emploi, sans condition d'âge, sans condition de situation familiale, etc. Donc c'est versé à titre individuel et sans contrepartie. Ça veut dire que on va pas tomber dans les différentes dérives de la société laborieuse, donc pas d'obligation de rechercher activement un emploi, pas d'obligation de se retirer du marché du travail, pas d'obligation de réaliser un travail d'intérêt général. Et puis un autre point qui est important, c'est que son montant doit être suffisant pour qu'il soit véritablement émancipateur. Il faut qu'il soit suffisant, donc sachant qu'il y a plein de variantes possibles du revenu inconditionnel. Il y a des variantes très libérales, et puis il y a des variantes de gauche, donc que je qualifierais d'émancipatrices. Un des critères qui permet de faire le tri dans tout ça, c'est notamment le montant qui va être proposé. Donc moi je dis ce montant doit être suffisant, et par suffisant j'entends toujours trois choses. Suffisant pour échapper à la pauvreté, d'une part, donc ça veut dire que le montant du revenu inconditionnel doit être au moins égal au seuil de pauvreté. C'est-à-dire que tout le monde doit sortir du seuil de pauvreté. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus de 1 000 euros par mois par personne, enfin pour une personne seule. Suffisant pour échapper à l'exclusion ensuite. Donc là, c'est l'idée que le revenu inconditionnel doit permettre d'accéder aux biens et services essentiels, donc entendu comme biens et services essentiels à la participation active à la société. Le raisonnement, c'est que dans une société comme la nôtre, si on veut pouvoir être considéré comme un pair par les autres, il faut pouvoir accéder à certains biens et services, il faut pouvoir communiquer, il faut pouvoir se former, il faut pouvoir se cultiver, etc. Il y a des tas de biens et services auxquels il faut accéder impérativement. Et puis le troisième critère du suffisant, c'est suffisant pour échapper à l'exploitation. Donc ça veut dire que on doit pouvoir durablement refuser un emploi parce qu'on estime que les conditions d'embauche sont pas satisfaisantes, que les conditions de rémunération sont pas satisfaisantes, parce que le boulot lui-même n'a pas suffisamment de sens, on doit pouvoir dire « bah non, je le ferai pas, et je le ferai pas aussi longtemps que je voudrais ». Donc c'est ça, c'est les trois critères du suffisant, et donc là, entre la double inconditionnalité et le critère du suffisant, on a quand même une bonne ébauche de ce que peut être un revenu inconditionnel émancipateur, Et c'est parce qu'il est suffisant et doublement inconditionnel qu'il permet donc de légitimer un refus du travail. Donc ça donne la possibilité de se dire, en fait, il y a plein d'autres activités qui mériteraient d'être réalisées, y compris hors de l'emploi et hors du salariat. Le fondement que j'utilise pour défendre le revenu inconditionnel, c'est la reconnaissance de la contribution de tous à l'enrichissement collectif. Donc c'est bien dire, chacun de nous, quelles que soient nos activités, nous contribuons d'une manière ou d'une autre à l'enrichissement collectif, et à ce titre-là, nous avons droit à une part du gâteau que nous produisons collectivement. Et une part suffisante pour nous permettre de continuer à contribuer à la production de ce gâteau dans de bonnes conditions. Et donc c'est en cela que ça rebat un peu les cartes sur la définition du travail, parce que ça permet d'élargir cette définition du travail entendue comme contribution à l'enrichissement collectif, utilité sociale, etc., hors de l'emploi. Donc ça permet de reconnaître les chômeurs, alors non pas comme des assistés, des parasites, etc., mais comme des personnes qui sont tout à fait utiles à la société, qui participent au même titre que les autres à la production du gâteau.
Forcément, je vais dire, s'il y a un revenu inconditionnel, plus personne ne voudra travailler, et qui va faire les tâches pénibles ?
Déjà, sur ce premier réflexe, qui consiste à dire « mais plus personne ne voudra bosser », en fait, ça nous amène à remettre en cause, là aussi de manière assez radicale, nos objectifs collectifs en matière sociale, notamment en matière de lutte contre le chômage et de création d'emplois. À partir du moment où on se dit « si on est libéré de la contrainte pour l'emploi, tout le monde va sauter sur cette occasion pour quitter effectivement l'emploi », alors notre objectif collectivement, ça ne doit pas être de créer de l'emploi. Notre objectif collectivement, ça doit être de faire reculer l'emploi le plus possible. Concrètement, ça veut dire détruire des emplois. La question qu'on va se poser, c'est pas comment est-ce qu'on peut produire le plus possible, mais comment est-ce qu'on peut ménager au mieux notre peine. Donc on change complètement d'objectif. C'est pour ça que je le défends dans une perspective décroissante. Pour moi, ça permet, je dis souvent, il faut passer la société, notre société, au révélateur du revenu inconditionnel. Une fois qu'on a un revenu inconditionnel en tête, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qu'on va remettre en cause dans notre société. Et la première chose qu'on met en cause, c'est le travail. C'est la place du travail dans la société et dans nos vies. Si on a la possibilité de s'en passer durablement, est-ce qu'on tente le coup ? Donc déjà, faisons en sorte de bosser collectivement le moins possible. Faisons reculer le volume d'heures travaillées au sein de notre société. Ceci dit, parmi les activités qui sont réalisées aujourd'hui, donc on pourrait faire le tri, se dire certaines finalement valent moins que notre temps libre, mais certaines sont vraiment indispensables. Et parmi les tâches qui sont indispensables, il peut y avoir des tâches pénibles. Donc la question qui se pose, c'est comment réaliser toutes ces tâches pénibles. Donc la question qu'on devrait se poser, c'est toujours quel est le degré de pénibilité que je suis en droit d'exiger des autres. Et en fait, il me semble que le degré de pénibilité qu'on est en droit d'exiger des autres, il est plutôt faible. Donc le premier réflexe qu'on doit avoir en matière d'activité pénible, c'est se passer autant que possible, ne pas avoir recours à des activités pénibles réalisées par les autres. Ça change quand même radicalement notre vie. À partir du moment où effectivement on se dit qu'on n'a pas des esclaves à disposition, alors esclaves salariés, mais on n'a pas des esclaves à disposition pour réaliser toutes les tâches qu'on n'a pas envie de faire, on se passe effectivement de pas mal de choses. Alors un exemple que je prends souvent, c'est tous les livreurs à vélo. Je fais le pari que si on mettait en place un revenu inconditionnel, il n'y aurait plus grand monde pour pédaler et amener des plats préparés un peu partout à travers les villes, quel que soit le temps, l'heure, etc. Sans doute qu'il faut arrêter, en fait. Donc, revenu inconditionnel ou pas, sans doute qu'il faut arrêter d'exiger ce degré de pénibilité de la part des autres. Ensuite, une fois qu'on s'est passé autant que possible, il reste quand même des activités qu'il faut réaliser. Et donc là, le deuxième réflexe, c'est faire soi-même. Arrêter de déléguer, faire soi-même, faire avec les autres, faire pour les autres dans une logique d'entraide, mais pas dans une logique d'exploitation. Donc autant que possible, faire preuve d'autonomie dans la gestion des activités pénibles. Si on n'a toujours pas réussi à gérer toutes les tâches pénibles comme ça, alors on peut le faire dans le cadre d'une activité salariée, mais en partageant les tâches. Donc plutôt qu'avoir une logique de division du travail, comme c'est le cas dans la plupart des entreprises, ayant une logique de partage des tâches. Faisons en sorte que, au cours d'une même journée, d'une même semaine, du même mois, on puisse faire une multitude de tâches, certaines ingrates et d'autres beaucoup plus gratifiantes. Si tout ça n'a pas marché, il y a la question de la valorisation. La valorisation sociale, la valorisation économique, la question du sens également. On s'aperçoit que, par exemple, dans un cadre bénévole, moi je pense souvent aux festivals, à chaque fois qu'il y a des festivals, il y a souvent des tas de bénévoles qui travaillent sur les festivals et qui font des activités, des tâches qui sont pénibles, mais qu'ils font volontiers parce que ça a du sens. Ça peut aussi passer par une reconnaissance pécuniaire, avec une revalorisation des métiers pénibles. Le raisonnement étant, on doit aller à rebours de la logique actuelle, et donc les boulots les plus pénibles doivent être les boulots les mieux rémunérés au sein de la société.
« Dans l'épisode 3 de cette série, vous découvrirez le témoignage d'Erwan, qui de commercial s'est reconverti en enlumineur, et on parlera de la génération des millennials qui bouscule les codes du travail aujourd'hui. Ce podcast a été réalisé par Nolwenn Peria. Commentez, écrivez-nous, partagez, réagissez et procurez-vous le magazine des Déviations sur la quête de sens qui sort en décembre pour les fêtes. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et plein d'autres. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.